Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche.
Depuis 5 ans, la France est dans un état d'insurrection quasi permanente. Grève des cheminots contre la casse de leur statut, mouvement des gilets jaunes, bataille des retraites saison 1, Covid, mise en cause de la politique sanitaire, bataille des retraites saison 2, le climat politique est électrique, les institutions ne parviennent plus à digérer des contradictions qui ont pour cause principale l'accélération de la contre-révolution néolibérale. Plus le pouvoir se crispe, plus les formes de sa contestation se font inventives. Mais pour l'instant, le mouvement social résiste, mais ne gagne pas. Que faire? C'est la question que se pose l'historienne Ludivine Bantini dans un ouvrage dont le sous-titre claque, et je le lis, « Stratégie d'hier et d'aujourd'hui pour une vraie démocratie ». Ludivine Bantini est sur le plateau du Média pour évoquer ce petit essai de combat et les idées puissantes qu'il charrie.
Mais on s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pas, vous.
Bonjour Ludivine.
Bonsoir Théophile, merci pour cette présentation et cette invitation.
Petite question de forme, mais pas que peut-être, pourquoi ce titre « Que faire ?» qui emprunte à Lénine ?
Oui, ça emprunte à Lénine, mais en fait c'est une question assez basique. Alors c'est vrai que c'est un clin d'œil qui est à la fois grave et un peu léger aussi, c'est-à-dire un peu auto-ironique. C'est-à-dire, je ne me prends pas pour Lénine. Et comme je le dis très rapidement dans l'ouvrage, il s'agit plutôt d'une synthèse inspirée de beaucoup de luttes, de beaucoup d'écrits, de beaucoup d'expériences historiques aussi, parce que, comme tu l'as rappelé, je suis historienne, et donc j'ai essayé dans ce livre de mettre à profit et surtout au pot commun voilà, ce que l'on peut retirer de l'étude historique de certaines grandes mobilisations, voire de certains grands mouvements insurrectionnels ou révolutionnaires. Donc voilà, le que faire. Je répondrai aussi à ta question sous l'angle de la nécessité absolue de revenir à des enjeux stratégiques. Il me semble que voilà, les luttes, comme tu l'as souligné, sont extrêmement puissantes, sont créatives, sont déterminées, pleines de bravoure, je dirais. Mais en même temps, elles sont souvent défaites. Pas toutes, hein, parce qu'il y a aussi des mobilisations locales qui triomphent parfois. Mais je crois que ce qu'on a perdu depuis plusieurs décennies, et je ne prétends pas apporter une solution, mais en tout cas poser ces questions, c'est une réflexion stratégique collective, y compris dans les organisations politiques, dans les associations, dans les collectifs. Hein, je ne parle pas que des partis politiques. Mais voilà, la question stratégique mérite d'être à nouveau posée de manière extrêmement déterminée, me semble-t-il.
Alors, je voudrais qu'on commence par évoquer un peu l'actualité. Avec cette bataille des retraites qui est un peu en pause, mais qui va rebondir début juin, avec une journée d'action et de mobilisation le 6, mais aussi avec la niche parlementaire du groupe Liot sur l'abrogation de l'article 7 de la réforme des retraites le 8. Bref, cette pause, elle est propice à un peu de réflexion et de mise en perspective. Et je voudrais te demander comment tu analyses le grand effort populaire de ces derniers mois et aussi te poser la question, qu'est-ce qui bloque ? Que faire ?
Alors, en effet, dans ce mouvement, il a été... Alors, je vais essayer de ne pas en parler trop au passé.
Il l'est.
Mais jusqu'à présent, il a été très, très puissant. On n'a jamais vu de telle, me semble-t-il, hein, participation aux manifestations. Et il me semble que c'est vraiment historique, y compris par rapport à un événement que je connais bien pour en avoir fait l'histoire, le mouvement de mai-juin 68 avec une grève générale. On va y revenir peut-être, c'est peut-être la grande différence. Mais y compris en 68, il n'y avait pas du tout ce nombre de manifestations. Là, on a vu, on le sait maintenant, on a bien regardé tout ce qui se passait dans des villes de toute taille. Donc la mobilisation, elle a pris vraiment partout avec une immense colère. Et aussi, pas seulement une colère, hein, pas seulement quelque chose de défensif, mais quelque chose non seulement d'offensif, mais également de constructif. Je veux dire, il y a eu vraiment des propositions alternatives à la contre-réforme des retraites. On ne s'est pas contenté de dire non merci, en fait. C'est toute une conception du monde, c'est toute une conception de l'existence qui a été posée dans ce mouvement. De ce point de vue, c'est extrêmement puissant. Il y a une vraie puissance collective qui s'accumule. Tu as cité vraiment une période insurrectionnelle depuis quelques années. Je suis d'accord avec ce terme. Il y a eu cet immense soulèvement populaire des Gilets jaunes. Et d'ailleurs, il y a en quelque sorte des inspirations réciproques. On a toujours les chants des Gilets jaunes présents dans la mobilisation récente. En revanche, je crois que ce qui nous manque, Tu as parlé de journée d'action, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est beaucoup plus de continuité, beaucoup plus de sens du rapport de force. Alors, ça ne veut pas dire qu'intimement et collectivement, on ne l'ait pas, ce sens du rapport de force, mais il n'empêche qu'on n'a pas réussi à le mettre en œuvre. Et en particulier, donc, nous avons fait quelques 14 journées de grève, hein, si j'ai bien compté. Il faudra que je regarde ma feuille de paye moi-même pour, voilà, pour le mesurer encore davantage douloureusement. Et en même temps, voilà, on a fait des caisses de grève, il y a eu une très puissante solidarité qui se poursuit. Mais ces 14 journées de grève, aussi dispersées, de journée d'action en journée d'action, je pense que ça n'est pas du tout efficace. Voilà. Et je crois que si on avait décidé collectivement, avec une impulsion à la fois par le bas et par le haut, si j'ose dire, par une plus puissante auto-organisation à la base, comme ça avait pu exister, je ne veux pas fétichiser les mouvements précédents, mais comme ça a existé beaucoup en 1995, en 2003... en partie en 2006, des formes interprofessionnelles, des formes de coordination. Ça nous a manqué. Et je pense aussi que ce qui nous a manqué, c'est que la grève soit plus puissante dans la continuité de cette grève. En fait, tout simplement, là non plus sans fétichisme, c'est pas un mot d'ordre, c'est pas une baguette magique, mais la question de la grève générale, elle mérite vraiment toujours d'être posée. Pourquoi ? Parce que c'est uniquement à ce prix, uniquement à ce niveau de rapport de force, qu'on pourrait modifier la donne par rapport au pouvoir. Là, le pouvoir, en la personne d'Emmanuel Macron, nous dit quand même assez tranquillement et assez cyniquement qu'on peut manifester autant qu'on veut. Il nous dit, vous avez le droit de manifester, mais oui, c'est parfaitement légitime, à partir du moment où on respecte l'ordre public, etc., bien sûr. Il met en œuvre une violence policière d'un niveau sans cesse plus exacerbé, mais voilà, il nous fait comprendre que ça ne suffit pas du tout.
Alors, on a parlé donc des mouvements sociaux précédents, mais en 2023, le monde du travail est beaucoup plus éclaté. Il y a une histoire du mouvement social, mais aussi une histoire de la contre-réforme, avec la disparition progressive des régimes spéciaux. Donc, dans les grandes entreprises d'avant-garde, il y a des statuts différents, de plus en plus différents, des personnes en statut cheminot, des personnes en statut pas cheminot, des personnes qui sont externalisées. Et puis, il y a le régime de l'auto-entrepreneuriat. Il y a tous ces métiers, en fait, qui sont des métiers dont ceux qui les exercent, en fait, gagnent leur argent au jour le jour, sans contrat et sans même possibilité de faire grève. Il y a des tout petits collectifs de travail. Il y a une sorte d'atomisation de l'unité de travail. Est-ce que ça, c'est pas à prendre en compte parce que finalement, c'est aussi le résultat d'une histoire. À chaque grand mouvement, le camp d'en face a organisé l'impossibilité d'une victoire du camp de la réforme sociale.
Si on prend cette hypothèse, et je partage en partie tes constats, alors ça signifie qu'on peut s'enfermer dans un certain pessimisme, parce que ça signifie que désormais, on ne pourrait plus jamais gagner, parce qu'on ne pourrait plus engager de bataille véritablement décisive.
Alors, donc, non, je le dis en constatant moi-même que les formes et l'imagination des masses laborieuses et sans fin, et que justement dans le mouvement qui est en cours, il y a eu des créations, on a vu les cassoulades, on a vu les afters, si on peut dire, des grandes mobilisations, on a vu plein de petites choses qui ont par exemple débouché sur la baisse de la notation financière de la France, parce que finalement les milieux financiers considèrent qu'Emmanuel Macron ne tient pas bien son pays, donc pessimiste, mais non. La question de la grève générale est quand même à mettre, en réflexion, en prenant en compte...
J'entends bien. Et encore une fois, je ne nie en rien l'inventivité et le déploiement extrêmement original des dernières années dans ces mouvements et des dernières semaines. En effet, les casserolades, c'est important. Et ça déstabilise de fait le pouvoir, ce qui le déstabilise et qui le... fragilise
une forme de continuation.
En partie. Oui, non, mais bien sûr. Mais ça, en fait, en quelque sorte, j'en suis, mais je crois que c'est un pis-aller. Alors, donc, je vais revenir un peu plus précisément sur ton interrogation, qui est parfaitement légitime et juste, mais quand même en soulignant qu'il ne faut pas s'imaginer qu'en 1936 ou en 1968, il n'y avait pas un grand courage à faire grève en fait. Il y avait beaucoup moins de protection sociale, par exemple, pour ce qui concerne 1936. Il y avait aussi beaucoup de petites entreprises. En 1968, ce que j'ai essayé de montrer à cet égard, en me plongeant dans beaucoup, beaucoup d'archives de départements, d'endroits extrêmement variés, eh bien, il y avait beaucoup de petites entreprises, de petites usines, de petites unités de production qui se sont mobilisées par la grève. Bon, et il y avait un effet d'ailleurs de... Alors, je ne vais pas dire contagion, parce qu'à chaque fois, on a l'impression, avec des mots un peu médicaux, que ça psychologise ou que ça médicalise le mouvement. Non, mais il y a eu un effet d'entraînement, disons, un effet d'émulation. Voilà, alors, donc, bien sûr que tout ce que tu as dit, c'est le rouleau compresseur du capitalisme arrivé à son stade, on va dire, néolibéral, c'est-à-dire à son stade, en fait, en effet, de l'éclatement, de l'individualisation généralisée d'une part et de la marchandisation tout aussi généralisée de l'autre. D'accord. Mais partant de là, en fait, on ne peut pas échapper quand même à cette question stratégique majeure. C'est-à-dire qu'on pourra dire casserolade, on pourra dire, en effet, les impressionnantes manifestations sauvage, si on accepte de se réapproprier, d'assumer ce terme. Sauvage, c'est ce qui est libre, c'est ce qui décide de ne pas être domestiqué, de ne pas être canalisé. Donc ça m'a beaucoup impressionné. Et notamment dans une partie de la jeunesse. C'était intergénérationnel, mais ces manifestations-là, le soir, etc., le fait de prendre les rues, de prendre les villes, c'est très impressionnant. Mais en fait, pour l'instant, je suis désolée de devoir y insister, mais on perd. Voilà, ouais, on perd. Et donc, si on ne se pose pas cette question de ce qui leur fait peur, ce qui leur fait vraiment peur, je ne pense pas que ce soit les casseroles. Ce qui leur fait vraiment peur, c'est un véritable blocage de l'économie. Et d'ailleurs, il n'est pas anodin qu'à un moment, le 7 mars, l'intersyndicale, et notamment la personne de Laurent Berger, puisqu'il a assuré que c'était lui qui avait forgé ce terme, cette expression, c'était « mettre le pays à l'arrêt ». Donc ça signifie qu'il y a quand même une possibilité, une potentialité sociale et politique à le faire, des forces vives pour le faire. Mais c'était juste le 7 mars. Et donc il a dit d'ailleurs l'arrêt du pays, le mettre le pays à l'arrêt, mais pas le blocage. Il a bien insisté sur cette distinction. Or c'est quand même ça, voilà, c'est ça qui nous permettrait de renverser la table en ce qui concerne le rapport de force. J'en suis persuadée, mais encore une fois, je n'en fais pas un fétiche. Je demande à ce que ça soit discuté collectivement entre nous. Il y a quand même beaucoup de secteurs. Moi, je pense à l'éducation, je pense à la recherche, etc. Moi, il y a plein de domaines, mais les transports publics, etc., où ça reste possible. Bien sûr que quand nos statuts, toutes les formes de protection... Alors, je ne dirais pas régimes spéciaux, d'ailleurs, parce que... tu vois, régimes spéciaux,
régime les régimes avant-gardistes, spéciaux. On va dire.
Non, ce sont des conventions collectives, je crois que, bon, voilà, enfin bref. Mais peu importe. Mais c'est vrai que là où nos mots sont importants, c'est que comme les régimes spéciaux sont toujours brandis comme des espèces de privilèges, voilà. Donc si on dit convention collective, ça signifie bien que, dans différents secteurs, on s'est battu pour ça. Mais quand même, tout n'a pas encore disparu. Et je crois qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont fait grève, en quelque sorte, par procuration. Ça devient une vraie question sociale et politique. Les caisses de grève, beaucoup de caisses de grève. On va mettre dans les caisses de grève. J'ai des collègues qui ont dit « je ne fais pas grève », alors qu'ils pouvaient le faire. Enfin, vraiment, en mettant dans les caisses de grève, c'est-à-dire que financièrement, ça signifie qu'elles et ils pouvaient faire cette grève, mais étaient retenus, en l'occurrence, je suis dans l'éducation nationale, donc étaient retenus par les élèves, les programmes, le bac, les examens, tout ça, et la conscience professionnelle.
Bon. Alors, si j'ai bien compris ton livre, tu nous mets en garde à plusieurs reprises contre le piège réformiste à gauche et tu fais remonter les conséquences de ce choix-là depuis assez longtemps, au point d'écorcher quelque peu le mythe du Front populaire. Le Front populaire, ce beau moment d'exaltation du camp du progrès social avant la Deuxième Guerre mondiale. Tu reviens aussi sur les trahisons de la gauche de gouvernement contemporaine depuis 1981, de manière assez précise et détaillée. Alors, c'est quoi le problème avec le réformisme ?
Je ne veux pas dire qu'il s'agisse d'un piège. Et ce que je veux vraiment souligner ici, c'est que pour moi, il s'agit pas...
Tu pointes un problème quand même.
Comment ? Alors, je vais expliquer pourquoi il y a des apories. Apories, c'est quand on est face à une contradiction quasiment insoluble. Moi, c'est le mot qui me vient quand même souvent, parce que de fait, on est face à des contradictions. Et il faut au moins contribuer collectivement à se les poser avec franchise, je crois. Ce que je dis, j'essaie de le dire vraiment fermement, je vais l'affirmer ici, et merci encore de m'en donner la possibilité, c'est qu'il faut arrêter d'être sectaire. Voilà. C'est pas réforme ou révolution, c'est pas autonomie ou vote, c'est pas ZAD ou Union populaire. Voilà. Non, je pense qu'il faut vraiment jouer toutes les cartes. Et il faut vraiment faire converger, faire fédérer toutes nos initiatives. On n'a plus le droit, en fait, on n'a plus le temps des querelles de chapelle, même si elles vont bien au-delà de ça et qu'elles posent, encore une fois, des questions stratégiques. Donc, moi, je soutiens les organisations politiques qui ont un véritable programme émancipateur, qui ont un véritable programme issu d'ailleurs souvent des luttes. Hein, on voit dans le programme de l'Union populaire, par exemple, hein, je dis Union populaire parce que ça a été quand même la force centrale à gauche, mais voilà, on pourrait parler de la NUPES de manière générale, bon, avec bien des nuances, mais l'essentiel n'est pas là. Pour l'instant, c'est que c'est un programme, en effet réformiste, mais à entendre dans le bon sens du terme. Moi, il n'y a aucun caractère de disqualificatif dans ce terme de réformiste. Il y a des réformes à faire, qui sont des réformes de progrès social, qui sont des réformes d'épanouissement social. La question... Alors voilà, le mais, la question que je souhaite poser avec tant d'autres, c'est comment ces réformes peuvent-elles être concrètement mises en place dans un système où tout s'oppose à elles, tout s'oppose à ces réformes. Et donc j'essaie de prendre des exemples. J'ai le temps d'en prendre un ?
Oh, absolument.
Alors, dans le programme de l'Union populaire, il y a la limitation de l'écart des salaires. 1 à 20. Bon, 1 à 20, ça me semble déjà beaucoup. Mais Bernard Friot dit 1 à 3. Voilà, bon. Donc, 1 à 20, mettons. Mais ce n'est pas la question majeure pour moi. Ce n'est pas quelle fourchette. C'est le comment. C'est-à-dire que, en fait, si on passe par la législation, par la loi, voilà, on va interdire par la loi aux entreprises d'avoir un écart de salaire supérieur à 1 à 20. En fait, les grandes entreprises en particulier, elles se contrecarrent de la loi. On le voit au quotidien. Je cite l'exemple de Bouygues qui a été condamné de temps en temps pour travail dissimulé. C'est illégal. Mais sa condamnation se monte au maximum à une peine de 28 000 euros d'amende. C'est-à-dire c'est 0,0017% de son chiffre d'affaires. Alors, elle préfère continuer à bafouer la loi. Et donc, en fait, c'est voilà, ces réformes-là. Et en effet, j'ai essayé de le voir. Je suis plongée dans les archives du Front populaire. Et je ne veux pas écorner cette lutte incroyable qu'a été le Front populaire. Une grève en partie généralisée, avec des occupations très impressionnantes, très courageuses, pleines de joie. Justement, il y a eu une forte joie sous le Front populaire. Et ce sont d'ailleurs ces grèves-là qui ont permis d'arracher des conquêtes qui n'étaient même pas au programme du Rassemblement Front populaire, en particulier les congés payés. Mais ce que je vois dans les archives, mais vraiment, et partout, ce n'est pas que dans les grands bastions industriels, partout où je vais, c'est que le patronat, très rapidement, redresse la tête, dit, en fait, non, mais là, les congés payés, ça ne sera pas possible. Là, les augmentations de salaire, ça ne sera pas possible non plus. Donc là, ça sera seulement 5 jours de congés payés et pas 15 jours. Et puis, les augmentations de salaire sont balayées, mais extrêmement vite, par l'inflation. Et donc, d'ailleurs, il y a un nouveau mouvement de grève, ce qu'on sait moins. On connaît bien les grèves, en particulier de mai, juin, surtout juin 1936. Mais après, à l'automne, en fait, comme on voit qu'il y a une manière de renier, voire de remettre en cause les conquêtes sociales liées aux accords de Matignon, eh bien, il y a à nouveau des grèves et elles sont durement réprimées. Et d'ailleurs, le gouvernement de Front populaire, encore une fois, réprime les grèves. C'est difficile à entendre. Roger Salengro, en général, on l'associe à voilà, un personnage important dans l'histoire du socialisme. C'est de surcroît quelqu'un qui est mort dans les conditions les plus tragiques qui soient, puisqu'elle a mis fin à ses jours face à une diffamation horrible et infâme de l'extrême droite de l'époque, des ligues fascistes de l'époque. Mais il n'empêche qu'il était ministre de l'Intérieur et à ce titre, il a envoyé l'armée dans certaines usines qui étaient encore en grève à la fin de juin 1936. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à un moment, il y avait une alternative terrible. Très difficile.
Le compromis social-démocrate, si on peut le dire, peut devenir très vite une tension et une aporie.
Une aporie. Donc, le compromis social-démocrate. Et encore une fois, social-démocrate, par exemple, je pense que j'espère ne choquer personne, mais je vais essayer de m'en expliquer en deux mots. J'espère ne choquer personne en disant que la France insoumise, une partie de la NUPES, sont des forces social-démocrates.
Bah oui,
mais, oh non, mais attention, parce que maintenant, social-démocrate...
Non, il y a social-dème et social-démocrate.
Voilà, mais c'est terrible. Non, mais c'est terrible, parce qu'on pense que la social-démocratie, c'est Blair, ou c'est Strauss-Kahn, ou c'est Hollande. C'est pas ça du tout. Social-démocratie, c'est au sens où l'entendait les forces du socialisme au début du XXe siècle, c'est au sens où l'entendait Jaurès, c'est-à-dire, en fait, menons des réformes qui, au bout du compte, vont aboutir à une abolition du capitalisme, à un renversement de ce système d'exploitation et de profit. Et oui, donc là, il y a une contradiction, parce que l'alternative est terrible. C'est soit on décide de mettre en place véritablement ces réformes en touchant du coup aux rapports sociaux, en touchant notamment aux rapports de propriété, c'est ce que j'essaie vraiment d'interroger beaucoup dans ce livre, parce qu'en fait, la propriété éventuellement des logements des personnes qui nous écoutent, évidemment la propriété privée des moyens de production, parce que si on se laisse déposséder par cette possession de ce qui nous fait vivre, de ce qui nous permet de travailler, etc., et ben, la démocratie est déjà très, très abîmée. Donc soit on cède, et la plupart des gouvernements qui se voulaient sincèrement réformistes ont cédé aux injonctions du capital, et ça se voit encore davantage, si possible, dès 1981, pas seulement le tournant de la rigueur de 1983, j'essaie de montrer que c'est beaucoup plus précoce que ça, soit on va dans une situation d'opposition frontale et radicale à la logique du capital, et alors ça s'appelle de moins en moins du réformisme, parce que chaque réforme est porteuse d'une telle force de contestation qu'elle devient en soi révolutionnaire. Et c'est d'ailleurs Jaurès qui en parlait, de réformisme révolutionnaire, parce qu'à un moment, les deux sont imbriqués.
Mais les deux peut-être se rejoignent dans le concept de démocratie, en tout cas tel que tu l'entends, parce que tu participes dans ce livre à lui redonner du contenu, à ce mot, démocratie, à un moment où de plus en plus de monde n'y croit plus ou pense que nous ne vivons pas en démocratie. La démocratie, pour toi, ne peut être résumée à un rituel électoral. Elle est bien plus que cela. Par exemple, elle inclut forcément... Et tu l'as dit juste avant, la possession des moyens de production par les citoyens qui sont aussi des travailleurs et des travailleuses. Et tu évoques même un concept qui m'a marqué, le concept de grève autogestionnaire. C'est
oui.
Quoi ?
Alors, la grève autogestionnaire et de manière générale, les perspectives autogestionnaires, en effet, me semblent très, très importantes. Elles, encore une fois, je n'invente rien. Dans ce livre, je n'invente rien.
Oui, mais tu participes à...
Oui, voilà. Mais disons que je puise à toutes ces expériences, encore une fois, à la fois du passé, du présent, dans d'autres sociétés que les nôtres. Par ailleurs, j'essaie d'avoir un regard un peu, on va dire, anthropologique, au sens où il y a d'autres sociétés que les nôtres qui ont de tout autres critères. Et c'est très, très important pour pouvoir relativiser ce qui constitue un peu nos évidences naturalisées. Voilà. C'est-à-dire que il y a des forces productives, il y a des gens qui possèdent les moyens de production, etc. Mais en fait, il y a plein de sociétés, et peut-être une grande partie de l'histoire de l'humanité, y compris l'histoire contemporaine de l'humanité, est fondée sur de tout autres critères, et où la question de la propriété des choses qui sont productrices, en fait, de richesses, c'est pas une propriété privée. C'est une propriété collective. Donc voilà, ça fait quand même quelques années maintenant qu'on parle des communs, etc. Donc voilà, ça me paraît très important. Donc l'autogestion, c'est une thématique qui était très puissante dans les années 1960 et 1970, avec des expériences concrètes d'autogestion. C'est-à-dire, voilà, on a en tête l'IP, par exemple, à Besançon dans les années 1970. Mais en fait, il y avait beaucoup d'autres expériences, pas seulement en France, un peu partout en Europe, en Amérique latine également, et elle se pose encore vraiment aujourd'hui. Pour moi, la démocratie, oui, elle ne passe pas que par la chose politique ou institutionnelle, même si là aussi, il faut creuser. Il faut imaginer d'autres choses que la supposée démocratie représentative qui, de fait, ne représente plus grand monde. Et ça, il y a une grande conscience de ça. Mais donc, repasser par l'histoire et repasser par des expériences présentes pour dire « Mais non, mais il y a plein d'alternatives à cette forme extrêmement... faible, finalement, extrêmement étriqué de la démocratie, où on met un bulletin de vote tous les 4 ans, tous les 5 ans, et après vogue la galère, et après eux, le déluge, parce que le déluge, c'est nous qui le subissons au quotidien. Donc, je crois qu'il faut se réapproprier toutes ces formes possibles. C'est déjà une manière de mener une forme de révolution anthropologique, une sorte de révolution humaine, où on se dit, mais on peut faire autrement. Donc, partout où on est, essayons d'en discuter, essayons de mettre en œuvre déjà ce réflexe, y compris dans les grèves, c'est pour ça que tu as raison de parler de grève autogestionnaire, y compris dans les grèves, se réapproprier notre capacité de décision.
Ne pas faire que bloquer notre outil de production, mais être plus... plus proactif, si je peux dire.
Oui, alors oui, et puis j'entendais aussi par là ne pas forcément s'en remettre toujours à des décisions qui viennent d'en haut. Ce réflexe, il devrait être structurel pour nous, c'est-à-dire, et d'ailleurs ça s'est vu encore une fois avec les caisses de grève, c'est-à-dire, voilà, spontanément, hop, solidarité, entraide, caisse de grève. On l'a vu aussi pendant le confinement, quand même dans beaucoup d'endroits, solidarité, entraide, des brigades de solidarité qui se sont mises en place dans certains quartiers, etc. C'est-à-dire cette force de l'auto-organisation. J'aime bien cette idée d'auto. Voilà. Quand on est auto, c'est qu'on est autonome par rapport à des forces qui se prétendent supérieures à nous. Et alors, c'est valable aussi pour l'intersyndicale dans les mouvements. Hein. C'est-à-dire que moi, je pense que c'est très important qu'il y ait une intersyndicale, qu'il y ait de l'unité le plus possible. Hein. Je défends absolument l'unité. Mais il ne faut pas que ce soit un frein à nos luttes. Et il ne faut pas que ça soit une manière, encore une fois, de nous déposséder, mais y compris par notre propre inertie parfois, hein, de nous déposséder de nos modes d'action, en fait. Voilà. Et donc, cette question de l'auto-activité, elle me paraît absolument décisive et elle doit se poser vraiment à tous les niveaux.
Alors, comme pour répondre à l'avance à ceux qui t'opposeraient les mots révolution, Staline, dictature, tu traces les contours d'un itinéraire révolutionnaire qui ne dépendrait pas uniquement d'un grand soir, et tu empruntes à Bernard Friot, qu'on connaît ici aux médias, son concept de déjà-là communiste pour, disons, montrer qu'on peut, dès à présent, aller en avant, gagner, passer à l'offensive d'une certaine manière, si j'ai bien compris.
Oui. Alors, j'ai justement une nuance avec Bernard. Bernard Friot, que j'aime beaucoup et que, dont j'apprécie énormément le travail et de manière beaucoup plus générale, le travail de réseau salariat, le travail de toutes les personnes qui s'impliquent avec beaucoup de... Là aussi, non seulement beaucoup d'imagination extrêmement constructive, mais de réalisation dans les faits. C'est pour ça que je tiens, à, comme je l'ai fait dans le livre, à citer par exemple le travail de Laura Petersel et Kevin Certenay. Kevin, il est paysan, voilà, il travaille dans une sorte de ferme coopérative dans les Deux-Sèvres. Et Kevin et Laura, dans un ouvrage qui s'appelle « Régime général », posent la question de la sécurité sociale de l'alimentation de manière extrêmement précise, concrète, très vivante. Donc il n'y a pas que Bernard Friot, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui non seulement se posent ces questions, mais essayent de les résoudre dans la vie quotidienne. Donc, pour montrer qu'en effet, c'est possible. Mais la nuance que j'ai avec Bernard, mais c'est aussi une discussion qui a été soulevée, par exemple, dans l'ouvrage de dialogue entre Frédéric Lordon et Bernard Friot, qui s'appelle « En travail », c'est, en fait, si on veut étendre ce déjà-là, alors voilà, il y a du déjà-là, il y a la sécurité sociale, il y a la fonction publique, donc le salaire à vie, même si j'aime pas beaucoup qu'on utilise le mot salaire, mais bon, on ne va pas chipoter ici sur les termes, ce n'est pas de la sémantique qu'on veut faire, c'est de la politique, mais c'est, on veut étendre, mais on revient à l'aporie, on revient à la contradiction de tout à l'heure. C'est-à-dire que Bernard, il nous dit, voilà, on va étendre, on va étendre, on va étendre, ça va se démultiplier. Et je pense qu'il va y avoir une force comme ça. Et d'ores et déjà, elle se déploie. Il y a de plus en plus de gens qui font des coopératives.
D'ailleurs.
Tout à fait. Je décris une multiplicité d'expériences concrètes, de coopération. Mais en même temps, voilà, encore une fois, le capital, dont j'ai dit que, dans un livre précédent qu'il était ensauvagé, voilà, il est violent. On le sait très bien au quotidien. Eh bien, il ne va pas nous laisser faire tranquillement notre extension du déjà-là. Et donc, c'est pour ça qu'il faut aussi poser la question du rapport de force et poser des questions sur la révolution, mais c'est pas, en effet, c'est pas nécessairement le grand soir. Pour autant, mon modèle...
Mais c'est des petites bascules, on va dire.
Oui, mais je pense que c'est autant de petites bascules qui, à un moment, font converger des forces vers un renversement. Parce que je crois qu'il faut quand même poser la question du pouvoir.
Justement, tu évoques aussi un sujet assez tabou à gauche, hein, celui de la violence. La violence révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, peut-on éviter la première, la violence révolutionnaire telle que l'histoire nous l'a montré, peut-elle permettre de gagner aussi dans un contexte de surveillance généralisée, technologique, algorithmique? Est-ce que ce qui s'est déroulé, ces grands moments de bascule qu'on a connus dans le passé, dans les sociétés qui étaient justement moins gagnées par la surveillance massive, peut-on gagné malgré ça. Peut-on conjurer la violence non-révolutionnaire, contre-révolutionnaire, dont les autres noms, c'est racisme, réaction, recherche de bouc émissaire? Tu poses ces questions et je trouve que c'est avec un certain courage. Tu vas même jusqu'à douter du cadre national dans un contexte révolutionnaire, de la pérennité, de la pertinence du cadre national pour, canaliser les formes de violence contre-révolutionnaire. On va y arriver, mais déjà la question de la violence révolutionnaire.
Alors déjà peut-être la base, je pense qu'on partage ici, c'est que ce monde est violent. Le monde capitaliste est violent. Comme tu l'as rappelé, il y a un racisme structurel qui est produit justement aussi par une volonté de division, de recherche du bouc émissaire. Il y a énormément de types de violences sexistes, de violences homophobes, de violences... Voilà. Bref, une violence, je dirais aussi d'ailleurs en partie validiste, parce que voilà, il y a un manque de réflexion, y compris souvent... parmi nous, hein, de manque de réflexion sur cette question du validisme. Donc, ce monde est violent, et je finis par avoir coutume de citer un évêque brésilien qu'on finit par bien connaître parmi nous, parce qu'on voilà, on le cite de temps en temps, c'est Don Helder Camara, qui avait dit que voilà, il y a trois types de violences. Il y a la violence structurelle du système, en fait, hein, système social, économique, politique. C'est sa première violence. La deuxième violence, c'est celle qui lui réplique, voilà, qui se défend. Face à la première. Et la troisième, c'est celle qui réprime la deuxième. Voilà. Et donc cette troisième violence, c'est une violence policière, c'est une violence répressive. Et il disait, voilà, mais il n'y a aucune raison de dire que la seule violence, ça serait la deuxième, c'est-à-dire la nôtre quand on veut résister. Donc je pense qu'en effet, la violence, elle est souvent... elle est légitime à partir du moment où elle combat des formes de violence qui sont elles-mêmes structurelles et qui sont quand même à la fois beaucoup plus invisibilisées, notamment par les médias hégémoniques, mais qui sont ô combien plus destructrices de nos existences. Et j'y reviens, voilà, sur cette violence concrète qui
justement, le réformisme révolutionnaire, une de ses ambitions, c'est de substituer à la violence révolutionnaire l'épreuve électorale et d'avancer revêtue des habits de la légitimité institutionnelle.
Alors déjà, ce que je voudrais dire, du coup, pour répondre à ta question sur y a-t-il nécessairement violence quand il y a des situations révolutionnaires, il y a une expérience révolutionnaire que j'admire de tout mon cœur, c'est la Commune de Paris. La Commune de Paris, en fait, c'était une révolution populaire incroyable, avec une prise de pouvoir, parce que j'y insiste, hein, je crois qu'il faut vraiment poser cette question, sinon on pourra faire plein de petites choses dans nos coins respectifs, hein, mais on n'arrivera pas à faire quelque chose de beaucoup plus massif. Et la Commune de Paris, elle a réalisé cette révolution sans violence. C'est-à-dire que dès le premier jour... le 18 mars 1871, il y a eu une fraternisation avec les forces de l'ordre et le nouveau pouvoir, essentiellement le pouvoir ouvrier, de manière générale le pouvoir populaire, s'est mis en œuvre sans violence. Alors après, il y a eu une violence terrible, hein, de la part de la répression, pas seulement lors de la semaine sanglante, mais tout au long de l'expérience. D'accord. Mais en fait, pendant ce temps, la Commune a pu montrer qu'une révolution sans verser une goutte de sang était possible. Bon. Il y a une autre révolution plus récente, en fait, 100 ans plus tard, c'est la révolution au Portugal, hein, la révolution dite des œillets. Là, ça a été...
Une révolution démocratique plus qu'une révolution en prenant en compte toute la puissance du peuple, c'est-à-dire que ce n'était pas une révolution sociale en tant que telle.
Ah bah si, quand même, la révolution des œillets, ça a été quand même un mouvement où il y a eu justement de puissantes formes d'auto-organisation populaire. Ça, on l'oublie trop souvent parce que c'est comme au Chili. En fait, on finit par l'oublier parce que finalement, ce qui est quand même une révolution, parce que c'est quand même un renversement d'une dictature. Donc de ce point de vue, c'est bien une révolution, mais elle n'est pas passée que par les élections. Ça a été un mélange d'ailleurs, ça a été un mélange de forces armées, puisque c'est quand même l'armée, pour ce qui concerne la révolution de 1974 au Portugal, qui a joué un rôle important. Mais il y avait aussi une forte auto-organisation populaire. Au Chili, c'est la même chose. On s'imagine souvent que le Chili, c'était uniquement une voie électorale, hein, la voie chilienne vers le socialisme. Mais il y avait beaucoup de collectifs auto-organisés à la base, dans les quartiers, dans les entreprises, etc. Petit à petit, ils ont été mis de côté, d'ailleurs. Bon. Et on a vu que, malheureusement et très tragiquement, de manière horrible, cette expérience de révolution plutôt par une voie institutionnelle au Chili, a été renversé dans des conditions extrêmement dramatiques par le coup d'État de Pinochet. Donc en fait, on est...
Il ne faut pas avoir peur, en tout cas, de la, d'évoquer la prise de pouvoir avec ce que ça peut contenir de coercition. Enfin, je ne sais pas comment
pas
dire.
De coercition, bah, pas de coercition, mais de détermination à appliquer un projet. Voilà, et donc c'est pas forcément ou alors une coercition pour qui pour les possédants, enfin ceux qui possèdent en effet comme on le disait tout à l'heure les moyens de production. Bon, voilà, enfin les grandes révolutions ce sont aussi celles par différentes voies encore une fois, ce sont celles qui ont décidé de pas seulement prendre le pouvoir pour changer les institutions, mais aussi pour changer profondément les existences. Du point de vue social, économique, mais pas seulement, sur le plan aussi culturel, hein, une émancipation, elle passe par tous les domaines. Et donc, faire des réformes agraires, redistribuer très largement les richesses, modifier radicalement les rapports de travail. Donc oui, ça suppose d'aller très loin. Et c'est pour ça que, comme tu le soulignais, je me pose la question de notre capacité à le faire à une échelle véritablement nationale.
Parce qu'on est-ce que ce n'est pas, dès le commencement, une défaite que de considérer que l'espace national, qui est l'espace dans lequel la souveraineté populaire s'exprime ou se contrarie, est disqualifié et qu'il faut revenir à des formes plus petites que l'État-nation.
Mais
ces formes aussi, elles sont plus impuissantes, on va dire.
Moi, Pas forcément, parce que l'État-nation, c'est une construction historique. Pour ce qui concerne la France, elle est relativement ancienne, elle est pluriséculaire. Pour d'autres pays, c'est beaucoup plus récent. Et si je me permets de revenir une fois encore à la Commune de Paris, en fait, l'objectif, il était double. Et il me semble que c'était une solution très, très efficace. C'est que d'un côté, il y avait une volonté d'autonomie du peuple de Paris, qui s'est doté de ses propres institutions, de sa propre assemblée, d'une manière extrêmement, encore une fois, auto-organisée, avec une démocratie très vivante, d'une part, et d'autre part, une volonté de fédérer des expériences semblables. Et il y a d'assez nombreuses villes, finalement, qui ont tenté de faire la même chose. Et l'objectif, c'était de faire ce qu'on appelle, par exemple, dans le Kurdistan syrien, au Rojava, parce que là, on a une expérience qui existe, là non plus, hein, je ne vais pas en faire un fétiche, mais ça existe. Ce qui se passe là-bas, c'est ce qu'on appelle du confédéralisme démocratique. C'est-à-dire que voilà, l'échelle où on peut décider au plus près de nos vies, de notre travail, de nos existences, etc., bon, on l'a choisi. Et puis, à certains moments, il y a des échelles supérieures. Donc, il faut coordonner ces échelles. Il faut jouer sur ces échelles. Il faut des délégués, mandatés.
Disons qu'une confédération de Paris, Orléans et Lille qui se construirait contre la violence de ce monde, qu'est-ce qu'elle ferait
Je pense qu'elle peut faire beaucoup. Parce que, alors, c'est vrai que ça te fait sourire, mais en fait, je me suis dit ça en 2017, en regardant d'un peu plus près les résultats électoraux de l'élection présidentielle. Et en me disant, mais en fait, c'est dingue. On ne vit pas dans le même pays, en fait. Quand tu vois les résultats au Havre, et alors je vais prendre une caricature, mais à Deauville, où, voilà, en fait, on ne veut pas la même chose. Alors pourquoi est-ce qu'on se contraindrait nécessairement à vivre ensemble.
Tu peux aussi dire les résultats à Amiens et dans l'Amiénois. Tu peux dire les résultats à Lille et dans le Pas-de-Calais. Et du coup, tu te laisserais prendre au piège. On t'accuserait d'être une bobo qui veut faire sécession.
Havre, c'est pas spécialement bobo.
Tu as parlé du Havre et de Deauville. Deauville, donc, est une ville très, très bourgeoise qui vote très à droite. Mais on peut aussi prendre l'exemple des endroits encore plus populaires qui, malheureusement, ont voté à l'extrême droite.
Alors, c'est encore très différent.
C'est pour ça que je prends l'exemple.
C'est encore très différent. C'est-à-dire que pour moi, il y a... En fait, je pense que cet électorat qui vote à l'extrême droite vote contre ses propres intérêts et qu'il y a un travail et une responsabilité historique majeure de la gauche à mener pour le démontrer. Que l'extrême droite, en fait, c'est une extrême droite qui fondamentalement ne veut rien changer à l'ordre social, qui ne veut rien changer à l'emprise du capital et de l'extorsion, l'exploitation économique. Voilà. Moi, pour moi, c'est différent parce que une partie de l'électorat populaire qui en effet se tournent vers l'extrême droite, en fait, auraient bien davantage intérêt à justement fédérer ses forces autour de projets véritablement émancipateurs. Donc là, bien sûr que et les médias portent
une énorme responsabilité. Moi, je me fais un peu l'avocat du diable pour voir comment ce confédéralisme, de proximité pourrait être retourné contre toi.
Donc j'ai un autre exemple, mais encore une fois, ça peut nous apparaître lointain. Mais je crois que ça mérite de vraies discussions. C'est qu'au Chiapas, donc dans le sud du Mexique, il ne faut pas s'imaginer que... Voilà, donc là, on est face à une forme de démocratie directe. Les gens décident là où ils sont, là où ils et elles sont. Et d'ailleurs, on a ces fameux panneaux. Ici, le peuple commande et le gouvernement obéit. Hein, dans chaque village, dans chaque commune du Chiapas, c'est ce qui apparaît à l'entrée. Bon, mais le Chiapas, du coup, ce n'est pas un territoire homogène. Il n'y a pas, dans tous les villages, on ne s'organise pas forcément de cette façon. C'est un territoire un peu troué. Et donc, à certains endroits, on se reconnaît plutôt dans l'autorité centrale de la ville de Mexico, enfin du pouvoir de l'État mexicain. Et à d'autres endroits, on fait cette confédération. Je me pose la question. Et si tu veux, donc, tout cet ensemble de questions, ils forment une marqueterie. Mais il n'y a pas non plus, c'est pas non plus dispersé, c'est-à-dire qu'il y a un axe. Et l'axe, c'est la démocratie. Donc comment se réapproprier véritablement la démocratie ? Le mouvement des Gilets jaunes a énormément posé cette question, soit par le RIC. Alors, moi, je pense que le RIC pose un certain nombre de problèmes parce que les référendums, c'est issu d'une généalogie plébiscitaire que souvent le pouvoir peut manipuler. Bon. Mais c'est quand même une vraie question qui a été soulevée par une grande partie des Gilets jaunes. Et d'autre part, il y a eu aussi des assemblées, avec des délégués, mandatés, révocables. Je pense que cette question des conseils, ce qu'on appelait autrefois les conseils, des collectifs qui délibèrent et qui décident et qui élisent des délégués, et puis ça tourne. En fait, c'est aussi ce qu'on appelait dans la première Russie révolutionnaire, avant qu'ils disparaissent, les soviets.
Alors, que faire ? On va revenir un peu à du... concret, du concret très immédiat. Voilà. Tu poses des perspectives assez concrètes, quasiment à portée de main, si l'on est optimiste. Par exemple, le passage sous gestion publique ou plutôt socialisée, des secteurs passés en tout partie dans le domaine privé. On peut penser, en tout cas moi j'ai pensé dans l'immédiat à l'électricité, ou même au secteur de la petite enfance qui a été colonisé en réalité par le privé. Et ça, ce sont des possibilités qui sont immédiates, oui. Puisqu'on a vu, par exemple, que les députés, un certain nombre de députés ont réussi à marquer dans le feu de la loi ou dans le fer de la loi le fait que EDF ne serait pas saucissonné. Mais on peut aussi imaginer que même à un niveau municipal, certaines villes consacrent le rôle public du secteur de la petite enfance ou de l'eau, et puis que la question, enfin, un certain nombre de questions, oui, comme ça se pose, pour dire ici, c'est sanctuarisé, vous n'y toucherez pas. Et justement, c'est une sorte de déjà-là qui, finalement, quelque part, engage le rapport de force, puisque on le grave dans le marbre. On dit, no passeran, ici, à ça, tu n'auras pas droit. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose, enfin, une perspective sur laquelle les combats pouvaient s'axer, en quelque sorte généraliser la petite victoire, parce qu'il y a des choses à dire dessus, sur le statut d'EDF, par exemple.
Oui, oui. Pardon, je souriais à nos passarans, parce que du coup, forcément, ça fait penser à la Révolution espagnole, mais qui, là aussi, avait vraiment posé la question de la propriété privée des moyens de production. Mais bon, je ne veux pas revenir à ce qui t'apparaît trop lointain ou trop abstrait, mais quand même, c'est un autre exemple.
Oui, mais c'est pareil, là, je suis en train de parler de propriété.
Non, mais parce que, justement, tout à fait. Et donc, par exemple, pendant la Révolution espagnole, dans les grandes villes, mais aussi dans les campagnes, la question des services publics avait non seulement été posée, mais elle avait été mise en œuvre concrètement. Les gens s'étaient réappropriés les services publics, notamment les transports, l'énergie, etc. Donc oui, je suis absolument d'accord avec cette perspective-là. Et d'ailleurs, on en ressent l'urgente nécessité d'une manière qui est désormais extrêmement vaste. Moi, je connais y compris des personnes qui étaient plutôt des personnes de droite. J'en connais pas beaucoup dans mon entourage, mais j'en connais.
Passez aux aveux, Madame Montigny.
Non, je suis vraiment impressionnée par certaines trajectoires. Et ça me fascine. Des gens qui ont été des personnes de droite et qui aujourd'hui sont en panique de voir notamment cette question des services publics mis en cause, et dès lors qui se gauchise à, qui se gauchise à vive allure. Il y a beaucoup de trajectoires comme ça, en fait. C'est vrai qu'on a plutôt l'impression que, par exemple, dans les trajectoires biographiques, plus on vieillit, plus on est à droite, mais en fait, moi, je vois beaucoup l'inverse. Parce que on a cette nécessité absolue qui est posée par le désastre écocide, le désastre d'une destruction du vivant, biocide, enfin, voilà, cette catastrophe environnementale, mais pas seulement. C'est-à-dire que désormais, on le vit au quotidien, cette conséquence dramatique de la privatisation de tout, de la privatisation de nos vies, mais de la privatisation de tous les secteurs. Donc je pense que ça, en effet, c'est un point d'appui majeur dont la conscience s'est beaucoup déployée. Et qui pourrait être un point de bascule, c'est-à-dire, comme tu le dis, pas touche en fait, nos passaran, donc ils ne passeront pas. Et pour moi, c'est ça aussi le véritable réformisme, c'est-à-dire que le réformisme, c'est celui qui dit que le capital n'est pas le bienvenu dans des secteurs dont tu as dit qu'ils étaient sanctuarisés. C'est au moins, on va repousser sa logique de colonisation, tout à fait d'accord aussi avec ce terme, cette logique de prédation, d'intervention souvent catastrophique, voilà, on va l'empêcher d'atteindre la santé, la culture, comme tu disais, l'enfance de manière générale, l'instruction, l'éducation, voilà, tout ce qui concerne nos ressources et nos biens communs. Et je crois que pour revenir à cette notion de commun, de bien commun, c'est quelque chose qui s'est beaucoup étendu dans les consciences, et ça, c'est réjouissant, parce que c'était vraiment pas le cas dans les années 80-90, où il fallait que tout soit du fric, du fric, du fric, du profit, et ça, on en est largement revenu.
Merci beaucoup, Ludivine Bantini. Je rappelle que tu es historienne, intellectuelle engagée de manière plus générale et autrice de ce petit livre qui apparaît à l'écran, « Que faire, stratégie d'hier et d'aujourd'hui pour une vraie démocratie ». Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Avant de vous laisser, il est important de vous rappeler que si le média existe et que si nos programmes sont accessibles gratuitement, c'est grâce à vous qui partagez nos vidéos, grâce à vous qui nous financez. Merci. Pour les autres, n'hésitez plus. Rendez-vous sur lemediatv.fr pour vous abonner des 5 euros par mois afin de faire vivre la première chaîne, en tout cas celle qui se voudra quand elle aura son canal à la télé, la première chaîne d'infos indépendantes du pays. Aussi, vous le savez, nous sommes dans une campagne qui vise à faire débarquer le média à la télé. Notre dossier a été déposé auprès de l'ARCOM, mais des réticences persistent chez certains opérateurs de boxe qui ne trouvent pas notre modèle économique viable. Nous avons donc lancé une pétition dont l'objectif est de démontrer le contraire, de démontrer qu'il y a dans ce pays des dizaines, voire des centaines de milliers de citoyens qui pensent que le paysage audiovisuel a besoin d'une chaîne d'infos et de combat comme le média. Plus de 38 000 signatures déjà. Merci beaucoup. On continue de se mobiliser. Signez et faites signer vos proches. Rendez-vous sur unetelepourvous.lemediatv.fr. Quant à moi, je vous remercie encore et je vous dis à bientôt.